Drôle d'histoire, cette histoire de Jonas. Un peu déconcertante. Et pourtant, comme nous nous identifions facilement à Jonas, jusque dans ses reproches au Seigneur. Alors quoi, tu dis que tu vas les exterminer et tu fais preuve de bienveillance envers eux? Mais quelle faiblesse! Comme nous reprochons vite au Seigneur de se réjouir du retour de l'enfant prodigue. C'est que l'humain est plein de ressentiments souvent. Il nous touche aussi, ce Jonas, pas à une contradiction près. Il veut fuir loin de Dieu, puis il accuse Dieu de le chasser loin de lui. C'est que l'humain est plein de contradictions. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur le mouvement qui anime ce scénario de film. Car il s'agit d'une histoire très mouvementée, dans les événements, comme dans les sentiments et les images. Sur les deux personnages principaux, l'un nous est assez accessible, c'est Jonas. Mais l'autre, Dieu. Nous ne le connaissons qu'à travers les témoignages, les réactions, les sentiments qui lui sont attribués par l'auteur du récit. Alors, je vous propose d'examiner ces images de Dieu présentes dans le texte et surtout de voir comment évolue l'image de Dieu dans le déroulement du récit. Pour ceci, j'ai travaillé sur différentes traductions, celle en français courant que nous avons lue, mais aussi la traduction interlinéaire de l'hébreu et la traduction de Chouraki qui essaye de coller au texte hébreu. Reprenons le récit au commencement. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tout relire. Dieu ordonne à Jonas d'aller à Ninive et de crier contre elle, dit le texte hébreu, à cause du mal qui est monté jusqu'au Seigneur. Le texte, d'un bout à l'autre, parle du mal et de la mort. Le terme méchanceté est trop faible en français quand on parle du mal. Le mal, ça peut être très sérieux, un désespoir profond, la torture, le viol des corps et des consciences. Est-ce à dire que tous les habitants de Ninive sont des tortionnaires? Non. Un détail nous montre qu'ils sont là pour l'exemple, en fait. Ils sont 120 000, c'est-à-dire 12 fois 10 fois 1000. En gros, c'est l'humanité tout entière, nous y compris. Nous ne sommes pas tortionnaires, mais bien entravés quand même par le mal. Alors Dieu brandit la menace. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons un Dieu qui menace et qui fait peur. D'ailleurs, si Jonas s'enfuit si loin, vers Tarsis, Gibraltar, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas par caprice, une petite désobéissance histoire de s'affirmer. Non, ce qu'il cherche là, c'est être loin du Seigneur. Et croyant se mettre à l'abri, le pauvre malheureux s'embarque dans une drôle de galère, et il embarque avec lui le capitaine et les matelots, un peu comme dans un cauchemar. On croit fuir un danger et on tombe dans un danger plus grand. Mais notre Dieu est-il un Dieu de cauchemar? Cette figure toute puissante qui envoie les malédictions, les tempêtes, les ordres, même aux monstres marins. Cette figure toute puissante n'a-t-elle pas fait fuir plus d'un homme de bonne volonté? Deuxième tableau. Jonas dans le ventre du grand poisson. Jonas prie. J'étais mort. et tu m'as ramené à la vie. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. » Et le poisson rejette Jonas sur la terre ferme. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Jonas est sauvé. Jonas, oui. Mais les habitants de Ninive. Alors une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Alors après l'image d'un Dieu terrifiant, on aurait l'image d'un Dieu obstiné. Peut-être, mais obstiné dans quoi ? Et là, le petit mouvement amorcé dans le sauvetage de Jonas commence à se préciser. En fait, Dieu ne veut pas renoncer à sauver les 120 000 habitants de Ninive, en plus de Jonas. La réaction des Ninivites à l'annonce transmise par Jonas est un peu excessive, mais c'est le ressort des bonnes histoires. Et Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Ils sont retournés de leur mauvaise route, traduit Souraki. Dieu les réconforte du malheur qu'il avait parlé de faire contre eux. Il ne le fait pas. Le texte est là. Dieu avait projeté de faire du mal aux Ninivites. Pour les sortir du mal dans lequel ils étaient enfermés. Alors je ne sais pas, on pourrait peut-être plutôt dire que Dieu voulait faire du mal au mal. La suite du texte va plutôt dans ce sens. Il est vrai que je ne peux pas imaginer un Dieu vengeur qui exercerait sa vengeance sur les humains. Ce Dieu-là nous ressemble trop. Anthropomorphique, c'est un gros mot pour dire un dieu à l'image des hommes. Vous connaissez peut-être une petite blague qui dit « Dieu a fait les hommes à son image et les hommes le lui ont bien rendu ». Cette question du mal est vieille comme le monde. Vieille aussi la question de la responsabilité. Et ce texte est vraiment fort pour poser ces questions. Sur le bateau, les marins tirent les sorts pour savoir qui est responsable du malheur qui leur arrive. Puis ils invoquent Dieu de ne pas les rendre responsables de la mort de Jonas. Et à la fin du récit, Dieu explique à Jonas que les habitants de Ninive ignoraient ce qui est bon pour eux. Eh bien, il faut croire que Dieu ne nous prend pas pour des irresponsables complets. Il ne nous sauve pas de force. Il ne nous guérit pas de force. Dieu respecte notre liberté. Quelle histoire ! D'une image d'un Dieu tout-puissant et terrifiant, nous passons à un Dieu dont la sollicitude et l'amour sont tellement puissants qu'il ne renonce jamais à nous sauver du malheur. Ce message de vie est tellement fort que Jésus a repris cet appel à la conversion en parlant du signe de Jonas. Les évangiles synoptiques ont fait aussi un parallèle entre les 3 jours de Jonas dans le ventre du monstre marin, figure de la mort, et les 3 jours de Jésus dans le ventre de la terre. Mais là s'arrêtent les comparaisons. Jésus est tellement plus que Jonas. Nous allons bientôt entrer dans la période de l'Avent,